La question que nous vous posions hier était la suivante. Le Vlaams Belang et le PTB au pouvoir au niveau local, est-ce que cela vous inquiète, oui ou non? Et donc, Blaise van der Linden a posé la même question à Benjamin Billard, politologue au CRISP et spécialiste des extrêmes. Voici leur échange.
Benjamin Billard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka en ce matin. Alors, si vous êtes avec nous, c'est pour répondre à la question du jour. La question du jour que nous posions à nos auditeurs était la suivante. Le Vlaams Belang et le PTB au pouvoir au niveau local, cela vous inquiète-t-il? Et en majorité, cela inquiète nos auditeurs. Est-ce justifié selon vous?
Alors, ce sont bien des formations distinctes, qui sur le plan idéologique se distinguent particulièrement l'une de l'autre, mais qui soulèvent un certain nombre de questionnements légitimes en effet, et je dirais qu'on a quand même un momentum particulier qui apparaît suite aux élections du 13 octobre dernier, c'est-à-dire l'accession au pouvoir de chacune de ces formations pour la première fois pour le Vlaams Belang de son histoire, rappelons qu'il existe quand même depuis 1979, et pour la première fois côté francophone en Wallonie et à Bruxelles pour le PTB. Donc on a ici un fait historique qui pourrait, c'est selon, accroître la visibilité peut-être dans le futur, mais nous verrons les performances de ces formations, ou à l'inverse, ça pourrait se retourner contre eux éventuellement, selon la manière dont leur accession au pouvoir, l'exercice de la recherche constante de compromis va se dérouler.
Justement, on le sait, hein, l'exercice du pouvoir est toujours le maître mot et on voit les résultats de ces politiques. Pensez-vous que le Vlaams Belang, qui est un petit peu plus implanté que le PTB dans le nord du pays, pourrait, ces deux partis, s'implanter durablement dans le paysage politique belge?
Alors, le Vlaams Belang est déjà d'une certaine manière implanté durablement dans le paysage politique. On a connu les difficultés qu'il a rencontrées principalement après les élections locales de 2006, mais depuis 2018, il connaît un nouveau rebond électoral. Alors c'est vrai qu'il n'avait jamais réussi à exercer des responsabilités. C'est aujourd'hui le cas, alors c'est encore périmétré dans quelques communes, à Ninove où il exerce seul des responsabilités, au Majorat d'ailleurs avec Guy Dazeler, et puis dans d'autres communes, à Hans, Brecht et Isegem désormais, où là aussi il rejoint des exécutifs. Ce ne sont pas nécessairement des grandes communes, ce ne sont que quelques communes. Donc nous verrons de ce dont parviendra à faire de cet essai le Vlaams Belang, mais véritablement c'est une étape importante pour davantage de structuration encore de cette formation.
Alors, vous l'avez dit dans votre première réponse, hein, il faut évidemment séparer ces deux parties, mais question un peu grosse, un peu vaste, le PTB est-il selon vous un parti d'extrême gauche?
Alors, si la question est de savoir si le PTB est un parti qui respecte le cadre démocratique, je dirais oui, en réalité. On est un grand nombre de politologues à considérer qu'en effet, c'est un parti aujourd'hui qui respecte les fondements démocratiques. Et c'est justement une des différences que l'on peut établir avec le Vlaams Belang, dont toute une série de propositions, notamment en matière migratoire, rentre en confrontation avec la Convention européenne des droits de l'homme, par exemple. Donc on a évidemment une différence ici bien particulière. Alors je dis que le PTB n'est pas nécessairement antidémocratique, notamment si on considère son programme électoral, si on se considère aussi les actions menées lorsque il a exercé des responsabilités. Parce que c'est vrai que c'est aujourd'hui qu'on voit un coup d'accélérateur donné à la stratégie du PTB visant à aller plus loin, à exercer une influence directe sur les politiques publiques. Mais n'oublions pas que depuis 2018, il exerce déjà des responsabilités dans la commune de Zelzate en Flandre, également dans le district de Borgerhout en Versoix. Dans ces deux situations, on n'a pas pu détecter nécessairement d'éléments nous permettant de dire que c'est un parti qui s'est comporté de manière non démocratique. D'ailleurs, le tax shift qu'il a contribué à adopter à Zelzate a été porté au Conseil d'État et celui-ci a validé d'une certaine manière la décision en matière fiscale adoptée par la majorité en place à laquelle appartenait le PTB. Alors c'est vrai que toute une série d'éléments, notamment des discours sur la géopolitique, les relations internationales, peuvent soulever un certain nombre de questions, de doutes, notamment son admiration pour certains régimes qui légitimement soulèvent des questions, mais je ne suis pas sûr que ça puisse suffire pour qualifier ce parti de non démocratique.
Et donc pas de cordon sanitaire applicable.
Bah, disons que le cordon sanitaire a vu le jour dans un contexte particulier, c'est-à-dire celui de la croissance de l'extrême droite. Il a vu le jour, du coup, compte tenu de caractéristiques racistes, xénophobes, en l'occurrence du Vlaams Blok, ancien nom du Vlaams Belang, également ensuite rapidement du Front National du côté francophone du pays. Et donc c'est véritablement ces éléments-là, racisme, xénophobie, qui ont motivé l'adoption d'un cordon sanitaire politique et puis médiatique côté francophone du pays. Et donc en ce sens, il n'y a pas de raison de réfléchir le cordon sanitaire à l'encontre du PTB. Alors on entend bien que des questions se posent pour élargir ce cordon au PTB. C'est une piste défendue par certains, notamment à la droite de l'échiquier politique, qui est légitime notamment peut-être compte tenu de déclarations sur l'international telles que je les ai rappelées il y a un instant. Néanmoins, on est bien et alors dans une logique bien différente de celle qui a présidé à son adoption à l'encontre de l'extrême droite.
Alors, on parle du Vlaams Belang et du PTB. Le Vlaams Belang est le deuxième parti derrière la NVA dans le nord du pays. On a vu les résultats des élections. Y a-t-il aujourd'hui un schisme entre les Belges au niveau de la politique?
Alors, je ne sais pas s'il y a un schisme. En tout cas, on voit que longtemps, les résultats électoraux ont traduit des dynamiques un peu différentes selon qu'on est au nord ou au sud du pays. Alors, les élections du 9 juin, justement, de manière intéressante, ont rebattu un peu les cartes avec notamment une progression de formation de centre-droit ou de droite en Wallonie, par exemple, rebattant un petit peu ou remettant en cause cette idée selon laquelle il y aurait deux démocraties en Belgique. C'est un propos qu'a souvent répété quelqu'un comme Bart De Wever, par exemple. Mais c'est vrai que, notamment si on regarde à l'extrême droite de l'échiquier politique, on a une situation tout en contraste, assez d'ailleurs extraordinaire dans le paysage européen plus global, où l'extrême droite est en progression un peu partout. C'est le cas en effet en Flandre de manière importante, je l'ai rappelé, mais ce n'est absolument pas le cas au sud du pays, en Belgique francophone et germanophone, où l'extrême droite est complètement marginalisée aujourd'hui. Alors je pense que les raisons sont de différentes natures. On y retrouve des facteurs internes, c'est-à-dire propres aux formations d'extrême droite, qui ne sont pas capables de se réunir derrière un leader charismatique, qui ne sont pas capables d'éviter les tensions, les guerres internes au sud du pays. Il y a aussi des facteurs externes, qui ne sont pas directement liés à l'extrême droite, comme la forte mobilisation de la société civile, des mouvements antifascistes également, qui entendent empêcher coûte que coûte l'extrême droite de se réunir et de se structurer, mais aussi le cordon sanitaire médiatique, par exemple, qui est un mécanisme propre à la Belgique francophone, qu'on ne connaît pas en Flandre, et qui consiste à priver tout simplement les représentants de mouvements, partis, organisations non respectueuses des principes et libertés fondamentaux, particulièrement l'extrême droite de l'échiquier politique, de disposer d'un temps de parole libre en direct. Donc on a toute une série de facteurs qui permettent de comprendre ce grand écart. Néanmoins, et j'insiste là-dessus, ça ne veut pas dire qu'en termes d'attitude politique, il n'y ait pas des liens aussi qui puissent être opérés. Par exemple, en matière migratoire, les Wallons pensent très largement la même chose que les Flamands. C'est ce que peuvent révéler toute une série d'études de sciences politiques.
Ce fameux cordon sanitaire médiatique dont vous parliez, est-il devenu obsolète? Vous l'avez rappelé, nous sommes en Belgique francophone les seuls à l'observer.
Alors, il n'est pas obsolète dans le sens où il existe toujours, ça fait plus de 30 ans, il a vu le jour en décembre 91, il existe toujours, il est toujours très respecté, très observé, côté francophone toujours évidemment du pays. Et c'est vrai qu'à l'heure des réseaux sociaux, de la communication sur le web de manière plus générale, on peut légitimement en questionner l'efficacité, l'impact encore aujourd'hui. Et je pense que en effet, son impact est sans doute moindre qu'il y a encore 20 ans. Ça ne veut pas dire pour autant que son impact a disparu et que le cordon médiatique n'a plus aucun impact. Je pense qu'il a encore un impact très concret, même s'il est peut-être moindre que par le passé. D'une part, parce qu'il réduit la visibilité dont espèrent jouir les nouvelles formations d'extrême droite. Par exemple, le parti chez nous, qui a vu le jour en 2021, a fortement peiné à se faire connaître du grand public en vue des élections de 2024. D'autre part, parce que ça entretient ou ça évite d'avoir de faire penser au sein de la société qu'il s'agit de partis comme les autres. Ça entretient l'idée que ce ne sont pas des partis respectables, présentables, voire qu'ils incarnent le diable en politique, puisqu'on ne leur réserve pas un traitement similaire aux autres formations. Donc je pense que ces deux dynamiques permettent de comprendre que le cordon sanitaire médiatique en Belgique francophone a toujours un impact très concret aujourd'hui.
Benjamin Billard, je rappelle que vous êtes politologue au CRISP, spécialiste des extrêmes. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question du jour sur Radio Judaïa.
Avec plaisir.